Docteur Jones, je doute que vous ayez quoi que ce soit susceptible de me convenir.
Oh, quel joli caillou! Et comment on peut stationner pour des morceaux de cailloux?
Mais ce ne sont pas de simples cailloux!
Quel genre de chantier sommes-nous?
Je suis sûr qu'il peut nous apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité.
On est en direct sur Radio Campus pour la première émission de l'année des pierres qui roulent, une émission placée sous le signe de l'inattendu, parce que cette année, on explore des sujets méconnus, des choses dont vous attendez pas du tout, et on va aller à la rencontre des nouveaux publics. Au programme, donc, l'archéo-industriel, l'archéo du son, l'archéo du bâti, et donc on voudrait vous parler de ce qui s'est passé ce week-end avant de commencer, Léa.
Parce qu'elles permettent d'aller à la rencontre de l'inconnu, à la rencontre des autres, parce qu'elles permettent de mieux comprendre leur comportement et de prendre du recul sur nos propres attitudes, les sciences humaines et sociales ont pour mission de désamorcer les réflexes communautaires en tout genre. Germaine Tillion disait que comprendre, c'est combattre l'inhumanité. Et c'est pour cela, 6 jours après les attentats de la nuit du 13 novembre, que ce soir, contre l'obscurantisme, nous ferons de l'archéologie.
3 jours et 3 nuits de poursuite, sans manger, ni se reposer. Et aucun signe de notre gibier, alors que peut bien raconter un rocher?
Eh oui, que peut bien raconter un rocher? Comment on fait parler un rocher?
Eh bien, en regardant les traces que l'homme et l'animal ont pu laisser dessus. Parce que qui n'a jamais posé son doigt dans du ciment frais?
Qui n'a jamais appuyé son pied dans un goudron encore chaud?
Ou qui n'a pas gravé un signe dans le tronc d'un arbre ou dans le parement d'un mur?
Nous quittons un jour ou l'autre les lieux que nous traversons, mais le négatif de notre présence, que sont ces marques, lui, demeure.
Et ces traces, ces marques, les archéologues sont fréquemment appelés à les observer. Ils observent par exemple les traces des pouces des potiers sur les céramiques qu'ils ont façonnées, l'entaille que le tranchant d'un couteau a laissée sur l'os qu'on a voulu décharner, la marque apposée par le tailleur de pierre sur la pièce qui quitte son atelier, ou encore le trou qui subsiste après qu'on ait retiré le poteau d'une maison.
Mais comment les archéologues interprètent-ils ces marques? Comment travaillent-ils à reconstruire des processus de fabrication grâce à l'étude de ces traces?
Comment font-ils parler ces rochers?
Eh oui, comment font-ils? Eh bien, pour le savoir, nous accueillons aujourd'hui, en direct, 3 spécialistes de la question des traces. Alicia Espinoza, qui est technologue, céramologue et doctorante en archéologie de l'ère andine à Paris 1, et vous appartenez au laboratoire ARCAM. Nous sommes également en compagnie de Gisèle Merki, qui est technologue, tracéologue et doctorante à Paris également, qui appartient au laboratoire ARSCAN à l'équipe Ethnologie Préhistoire. Gisèle, bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, nous sommes également en compagnie de Rachel Noué, qui est aussi spécialiste des traces, et elle aussi doctorante à Paris 1 dans le laboratoire ARSCAN, dans l'équipe Archéologie des mondes grecs, archaïques et classiques. Bonsoir Rachel.
Bonsoir.
Pour commencer, on va écouter un petit carnet que tu as réalisé, Léa, pour lequel, comme Gimli, hein, du Seigneur des Anneaux, que nous citions en début d'émission, tu es parti sur les traces de plus ou moins grosses bêtes.
J'en ai assez d'entendre ces histoires de Yeti, puisque je vous dis qu'il n'existe pas, votre bonhomme des neiges.
Alors comment vous expliquez traces?
Ce sont des traces d'ours. Les ours aussi marchent parfois sur leurs pattes de derrière.
Non, ça y est, pas ours, Yeti.
Oh, et puis tonnerre de Brest, il n'y a qu'à suivre cette piste.
Bon alors, on a tout,
on a pris le livre, on va pouvoir y aller, je pense qu'on n'a rien oublié.
Vous allez où?
On va chercher des traces.
Une balade en forêt, sur la piste des animaux. Quand on s'écarte un petit peu du chemin, on se rapproche d'une rivière, avec une toute petite cascade. Les bords de ruisseaux peuvent être l'occasion de retrouver, enfin en tout cas c'est l'hypothèse qu'on pose, d'autres traces parce que les animaux viennent éventuellement boire un peu. D'ailleurs on le voit bien parce que juste à côté de la rivière là, on voit que le sol est beaucoup plus remué, comme si effectivement il y avait eu du passage à cet endroit là.
Par contre il y a des plumes. Donc là, on peut penser qu'il y a beaucoup, beaucoup de plumes. Donc ça, c'est sans doute un rapace qui s'est attaqué à genre merle, vu que toutes les plumes sont bien noires. Donc là, c'est une trace de... toujours des traces de repas.
Un rapace qui serait venu manger ou attraper un...
Attraper, puis après, voilà. Ou il n'a peut-être pas mangé là, mais comme l'autre s'est débattu, il a perdu pas mal de plumes. Attends, là on arrive sous des résineux. Attends, on va peut-être trouver des vieilles pommes de pin. Marcher un peu plus loin.
Voilà. Tiens, regarde, là, regarde là.
Ouais. Ouais. Là, il y en a une. On va... Attends, je vais prendre mon bouquin. Voilà. Alors, donc, c'est la pomme de pin, elle est... Regarde, elle a été surtout mangée à la base. Il a laissé une espèce de toupet en haut.
Ouais.
Donc ça, d'après le bouquin, ça semblerait que ce soit un écureuil.
D'accord.
Voilà.
Là, il y a une autre coquille là, qui a l'air, par contre, avoir été...
Elle a été cassée.
Alors, les marques sont assez plutôt précises quand même.
Oui.
Donc là, par contre, ça pourrait peut-être être la trace d'un un repas.
Ah oui, sûrement, oui.
Donc, qu'est-ce qu'ils pourraient manger les
escargots? C'est vrai que là, on est en lisière de forêt, plus près des champs. Ça pourrait être les grives. Je sais que les grives, elles, en général, elles utilisent une pierre, puis elles laissent tomber les escargots pour que la coquille se brise et pour avoir plus de facilité à récupérer l'animal.
C'est marrant parce que du coup là on, tout d'un coup on voit de grosses traces de vélo. C'est pas n'importe où, c'est un endroit où la terre, l'humus semble plus épais qu'ailleurs et plus humide. Donc en fait le vélo a davantage laissé des traces là où la terre s'y prêtait. Enfin, là.
Un hobbit était allongé ici. Et l'autre là. Leurs mains étaient ligotées. Leurs liens ont été coupés. Les traces s'éloignent du combat et vont vers la forêt de Fangorn.
Fangorn ? Quelle folie les a conduits là ?
Alors là, ce sont des... C'est un gros caca.
C'est quoi ? Oh, ça, c'est un cheval.
Bouse de cheval.
Oh, oui, ça, c'est du cheval. C'est énorme.
C'est la grosseur qui fait... Oui, en plus, là, il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs. C'est vraiment que du végétal. Bon, ça, c'est de la...
Oui, comme il n'y a pas des vaches qui passent par là, en milieu forestier, c'est forcément des chevaux.
Des chevaux. Puis c'est vraiment en très grande quantité, donc c'est un très gros animal.
Oh, regarde, là, il y a un trou de quelque chose, là.
Ah oui, là, il y a vraiment un trou. On ne va pas les farfouiller dedans, parce qu'on ne sait jamais, mais... Oui, il est énorme. Hein. Alors, bon, un lapin, je ne pense pas. Un renard peut-être, ou alors un blaireau.
Les traces de sabots de chevaux que l'on a rencontrées pour l'instant, si ma mémoire est bonne, elles vont toujours dans le même sens. C'est-à-dire qu'elles, donc ça veut dire que ce chemin est emprunté...
En sens unique. En sens unique.
En sens unique. Oh, une plume blanche, t'as vu?
Oui, une plume de tout petit. Toi, de...
Alors, levons la tête. Est-ce qu'il n'y aurait pas un nid au-dessus? Juste un petit qui aurait perdu une de ses plumes au passage.
C'est du V, ça, oui. Quelque part, toute cette litière que tu as à tes pieds, bah, c'est la trace en fait de l'existence d'une multitude de minuscules et petits êtres vivants qui transforment les feuilles. Donc
même le support de la trace est lui-même une trace.
Lui-même la trace de voilà, quelque chose qui se passe, en effet.
Ce chemin-là, 2-3 jours avant, homme marchait dessus. Alors, pluie tombée. Ces gens, des Chinois.
Et comment le sais-tu? Explique-nous.
Ces drones, vous, pas comprendre. Regardez un peu par terre. Eux portaient bottes chinoises. Ah, voilà. Haut dans les traces.
C'est bottes chinoises.
Vous tous, des enfants. Des yeux, mais rien voir. Si vous, dans Taïga, eh bien, tout de suite mourir.
Alors on vient d'entendre des extraits, entre autres, de Tintin au Tibet, du Seigneur des Anneaux et d'un film de Kurosawa qui s'appelle Derzu Uzala. On ne peine pas à trouver des histoires de traces et de pisteurs dans les films, parce que la notion de trace, eh bien, elle est très présente dans les récits. Ce petit carnet que vous venez d'entendre montre aussi qu'on peut faire soi-même l'expérience de partir sur les traces de quelque chose très facilement. Une balade en forêt, y suffit. Alors on se pose plein de questions. Pourquoi n'ai-je pas de traces ici? Pourquoi est-ce que j'en ai beaucoup là? Comment différencier ce qui est une trace de ce qui n'en est pas, etc., etc. Est-ce que les archéologues se posent aussi ces questions? Est-ce qu'ils étudient aussi ce genre de traces? Eh bien, on va essayer de le comprendre maintenant. Alicia, dans le cadre de ta thèse, tu travailles un petit peu sur la question des traces. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tes travaux?
Alors, bien sûr, donc je travaille en réalité pendant ce qu'on appelle la période intermédiaire océane, en gros entre le second siècle avant notre ère jusqu'au 7e siècle de notre ère. Et en gros, l'objectif, c'est de mieux comprendre qui étaient ces populations, quelle était leur organisation d'un point de vue social, économique et politique, et quels étaient leurs contacts. Et cette étude, elle se fait à travers une analyse comparative de leur production céramique. Et là, tout est l'importance des traces, puisqu'on se situe à l'échelle de l'objet, en l'occurrence le matériau céramique, pour chercher des attributs diagnostiques, c'est-à-dire des stigmates de fabrication, comme par exemple des traces d'outils, ou comme tu l'as dit tout à l'heure, des traces de pression exercées sur la céramique. Donc c'est une approche technologique pour mieux comprendre les sociétés anciennes.
D'accord. Et toi, est-ce que tu... Justement, parce qu'on va en reparler tout à l'heure, tu parles de traces aussi ou tu emploies un autre mot pour caractériser les...
Alors, en l'occurrence, souvent on emploie le mot de trait diagnostique, mais on peut aussi employer le mot de trace pour traces d'outils, notamment quand on, par exemple, on lisse la surface ou on la racle. Donc, on emploie différents termes.
D'accord, merci. Gisèle, toi aussi, les traces diagnostiques, les stigmates sont au cœur de ton travail. Est-ce que tu peux nous le présenter ?
Oui, alors moi, je m'intéresse dans le cadre de ma thèse aux armes de chasse, de pêche des chasseurs-cueilleurs maritimes, tels des harpons, des lances, et sur des populations qui habitaient la Patagonie australe et l'Alaska méridionale sur une période qui va de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle. Donc, des chasseurs-cueilleurs, mais qui perpétuaient le mode de vie jusqu'à des périodes récentes. Moi, je m'intéresse spécifiquement à la partie manche de l'arme de chasse, c'est-à-dire le long fût en bois. Alors ça, c'est un élément qu'on n'a pratiquement jamais en archéologie préhistorique, puisque le bois ne se conserve que très mal sur les sites archéologiques. Donc moi, je saisis cette opportunité d'avoir des objets ethnographiques avec cet élément encore entièrement conservé pour comprendre un peu le rôle qu'ont eu ces manches dans l'efficacité de ces armes. Je m'intéresse notamment à la manière, à l'investissement technique qui a été donné par ces populations à ces manches. Donc voilà, je m'intéresse effectivement aussi aux stigmates techniques, donc aux marques de fabrication visibles sur le bois.
D'accord. Et tu as dit que tu étudiais à la fois des populations d'Alaska et de Patagonie.
Ça me paraît un peu loin. Mais comment t'as...
Oui, effectivement, ça semble un peu bizarre, mais en fait, c'est très intéressant de les comparer parce que, bien qu'elles soient géographiquement extrêmement éloignées, elles avaient un mode de vie extrêmement semblable parce qu'elles habitaient des territoires côtiers, donc elles avaient un mode de vie qui était centré sur le littoral, avec un même climat.
Même faune aussi peut-être.
Et effectivement, une même faune, donc un même gibier en fait. Et par ce même gibier, ils ont développé une panoplie d'armes extrêmement similaires, bah, justement comme les harpons, les lances, là, qui se retrouvent aux deux bouts de l'Amérique.
C'est un peu ce qu'on retrouve aussi chez les chasseurs-cueilleurs en Europe ou pas du tout ?
Alors en Europe, on retrouve sur les sites archéologiques que les armatures, que la partie pointe de ces armes. Mmh. Mais effectivement, on a des pointes de harpons, des pointes de flèches.
Donc les traces que tu étudies, elles sont bien sur l'emmanchement. Et donc, à partir des traces qui se trouvent sur l'emmanchement en bois, tu vas en déduire
la manière dont ces peuples ont fabriqué leurs manches. Les outils qu'ils ont utilisés, les savoir-faire qui ont été mis en jeu pour fabriquer ces manches, ce genre de choses.
D'accord. Donc, Alicia, tu travailles sur la céramique. Gisèle, tu travailles sur le bois. Il nous manque quelque chose. Il nous manque...
Rachel,
surtout, et la pierre aussi. Alors Rachel, tu es spécialiste de sculpture et d'architecture, mais toi aussi tu utilises du coup les traces ou les empreintes dans ton travail.
Oui, donc moi je travaille sur les traces de fixation des statues grecques sur leur base. Donc la période que j'étudie, c'est toute l'époque grecque pré-romaine, des toutes premières bases de statues, donc on est à la fin du 7e siècle, jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la conquête romaine. Enfin, la limite basse, c'est le 1er siècle, mais parce qu'il y a des différences techniques avec la civilisation romaine, il y a des choses qui vont changer.
C'est quoi, par exemple, les différences ?
On va déjà avoir, au niveau de la pratique de la sculpture, on va avoir des choses un peu différentes, et puis surtout, on va avoir une standardisation de la fixation. Mmh. Et ça se voit bien sous l'Empire, bien que comme je n'étudie pas l'Empire, mais on voit quand même...
On ne peut pas tout faire non plus.
on voit quelque chose là qui justifie cette limite basse. Et donc j'étudie alors à la fois les statues de marbre, les bases de statues de marbre et les bases de statues de bronze, parce que c'est la grosse majorité des statues grecques, même s'il y avait des statues en bois, mais on a... Les marques sur les bases ne sont pas discriminantes pour le bois, parce qu'en fait, c'est des gros trous de poteaux. Donc, du coup, on les a peu conservés.
Que nous disent les bases que tu es sur les techniques de fixation et peut-être aussi sur les statues manquantes, parce que je crois que tout l'intérêt, c'est qu'on retrouve plus de bases que de statues, c'est ça?
Oui, alors effectivement, on a très peu d'originaux grecs. On en a plus en marbre qu'en bronze. En bronze, ça se compte vraiment... peut-être sur les doigts de deux mains, mais on en a très peu parce que le bronze a été récupéré à la fin de l'Antiquité. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bases dans les sites qui ont été fouillés, des bases qui sont inscrites ou non inscrites. Et du coup, on a beaucoup étudié, alors d'un point de vue architectural, d'un point de vue épigraphique, c'est-à-dire l'étude des inscriptions, et puis d'un point de vue aussi topographique. Et il y a quelque chose qu'on a assez peu étudié, en tout cas mis en série, c'est les traces des statues. Et effectivement, les traces des statues peuvent nous donner pas mal d'informations sur les statues qui se trouvaient dessus.
En fait, j'entends traces, j'entends stigmates. Comment vous choisissez en fait la manière dont vous les appelez ? Parce que du coup, vous êtes proche d'elles un petit peu.
Par exemple, pour la préhistoire, nous, on sépare bien ce qu'on appelle les traces et ce qu'on appelle les stigmates. Mm-hmm. Alors, ce qu'on appelle les traces, ce sont les traces d'utilisation. Mm. Ce qu'on appelle stigmates, c'est les stigmates de fabrication. Alors, en général, on pourrait appeler ça une trace. C'est une empreinte, mais c'est deux choses vraiment différentes.
À deux moments de la conception de...
Voilà.
Enfin, de la conception et de l'utilisation de l'objet.
Voilà. Mm. Et d'ailleurs, il y a des spécialistes de la traciologie, donc de ceux qui... des traces. Ils étudient donc l'utilisation des objets. Mmh. Et il y a des spécialistes des stigmates techniques, donc les technologues qui utilisent...
Je crois que c'est comme ça que tu t'appelles d'ailleurs, Alicia.
Oui, technologue, effectivement, comme tu dis, on s'intéresse plus aux traits diagnostiques qui sont significatifs d'un point de vue de la fabrication de ces objets. Mmh. Il y a d'autres archéologues, effectivement, qui s'intéressent plutôt aux traces d'utilisation. Donc, ce sont des analyses qu'on appelle fonctionnelles, comme par exemple le caramel de cuisson, donc ce qui reste sur les parois des céramiques, les coups de feu, la suie qui se trouve sur les parois. Mmh. Donc, effectivement, il y a cette différenciation terminologique.
Et Rachel ?
Moi, je parle d'empreinte parce que c'est pas tellement... Enfin, il n'y a pas de traces d'usage. C'est les empreintes des statues. Donc, je parle de traces et je parle d'empreintes.
Alors, en archéologie, il y a aussi un autre endroit où on parle, un autre domaine où on parle de traces, mais là, on a une échelle complètement différente. On parle aussi de traces en archéogéographie. Alors, en archéogéographie, contrairement à vous trois, on ne travaille pas à l'échelle de l'objet, mais à l'échelle carrément de la région, de la ville, de la région. Et notamment... une archéogéographe comme Émilie Cavana, qui aurait bien aimé être avec nous ce soir.
Nous aussi, on aurait bien aimé qu'elle soit là avec nous.
Elle va notamment étudier les traces du parcellaire, c'est-à-dire les segments qui délimitent en fait les propriétés, les petits lopins de terre de tout un chacun. Et pour limiter en fait les différentes propriétés, on creuse des trous, on creuse des grands fossés le long donc des propriétés. Et bien elle peut étudier elle aussi ces gros creux, ces énormes creux que sont les fossés parcellaires. Donc on peut le voir. En archéologie, alors on peut travailler sur la céramique, on peut travailler sur l'os aussi, on ne l'a pas mentionné.
On peut
tout faire, depuis l'objet jusqu'à la ville. On étudie des traces, on étudie des creux, des empreintes. Voilà, on est très pluriel en archéologie.
Bon, du coup, qu'est-ce qu'on en fait ? On va répondre à ça après une petite pause musicale avec Serge Gainsbourg, qui lui aussi faisait des petits trous.
Je suis le poinçonneur des lilas.
le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Mais on me mettra dans un grand trou et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous.
Eh ben on est toujours sur Radio Campus Paris 93.9 pour parler donc des traces en archéo. Alors, les archéologues que vous êtes, vous, bossent sur plusieurs types de traces, mais en soi, ça s'étudie comment ?
Appelez du renfort. Nous allons faire une battue. C'est inutile. Nous ne les retrouverons pas. Ils sont loin à présent.
Et pourquoi dites-vous cela ?
Regardez, ces traces de pneus sont celles de l'auto des ravisseurs, mais celles-là proviennent de la berline beige qui les attendait, et dans laquelle ils sont repartis.
Tonnerre de Brest, mais comment avez-vous deviné la couleur de la voiture ?
Il y a des traces de peinture beige sur cet arbre, là où le chemin est le plus étroit.
Est-ce que vous aussi, comme Tintin, vous regardez les traces beiges sur les arbres ? Comment est-ce que vous raisonnez toutes les trois avec vos traces ? Gisèle, quelles sont les procédures particulières ? Comment est-ce que tu fais quand tu trouves une trace et qu'est-ce que tu en fais déjà ?
Quand je vois qu'il y a des traces sur une lampe, bien sûr, je la photographie, donc je la décris, voir son l'organisation des stigmates et pour voir à quelle technique elle peut renvoyer.
Il y avait Alice Vinet qui aurait bien aussi voulu être avec nous ce soir, qui est tracéologue et qui travaille sur du lithique. Et elle nous disait qu'elle faisait des moules en fait, elle moulait en fait ses traces, elle utilisait du silicone ou de l'acétate. Et est-ce que toi aussi tu utilises ça sur ton bois ?
Non, pas du tout. Mais à moi, alors en plus, c'est difficile hein, parce que il faut faire attention aussi, c'est des objets qui sont issus de musées, donc finalement, il ne faut pas trop les toucher non plus. A priori, si j'ai une lumière que je peux orienter pour voir un peu toute la surface de l'objet, j'arrive à bien enregistrer le stigmate en fait.
Ce sont que des objets qui viennent de musées, c'est ça tu disais ?
Oui, bah, du coup c'est vraiment des objets ethnographiques hein, qui sont issus de collectes
oui, d'accord. Effectivement.
Auprès des peuples directement.
Alicia par exemple, est-ce que tu procèdes d'une façon un petit peu différente ou
Alors pour le moment, je démarre ma thèse, donc je n'ai pas encore eu accès au matériel archéologique parce qu'au Pérou, en fait, c'est très difficile de faire sortir du matériel en France.
Pour le moment, j'ai pu travailler sur des collections avec des collègues donc de la MAE et aussi sur quelques pièces du Quai Branly. Et la façon dont on procède finalement est assez similaire entre les technologues en céramique, c'est-à-dire que vous êtes face à des assemblages qui ont des traits très différents. Et ce que vous faites, c'est que progressivement, vous faites des petits tas sur une très grande table, vous établissez toutes vos céramiques et vous les regroupez par groupes très similaires. Vous commencez par exemple par classer la céramique qui est décorée, non décoré. Puis vous affinez progressivement pour découvrir en fait des grands groupes, s'il y en a qui sont faits au colombin, au modelé. Et ces observations, elles se font généralement à l'œil nu, car ce sont des macro-traces. Mais ce qui est très important, c'est de toujours combiner ces observations qu'on enregistre au fur et à mesure avec un travail de photographie qui est très important. Toujours combiner ça avec des approches au microscope, donc à la loupe binoculaire, qui est un stéréomicroscope. Donc toujours combiner ces approches pour affiner les interprétations. Donc voilà, ce va-et-vient entre approche micro et macro, comme on dit.
Et du coup, après, il faut que tu les décris, il faut que tu mettes des mots sur ces traces. Comment est-ce qu'on différencie il faut développer un vocabulaire incroyablement riche pour...
Tout à fait. Alors, c'est une approche qui est développée par Valentine Roux au CNRS et elle est très attachée à la terminologie qu'on emploie, c'est-à-dire qu'on parle de creux, on parle de bosse. Il y a vraiment tout un vocabulaire, une norme en fait très spécifique par rapport au bord. Par exemple, si je prends, vous savez, la céramique, pour la régulariser, on a fait ce qu'on appelle un lissage. Et selon si vous le faites sur une pâte qui est humide ou sèche, et selon l'outil que vous utilisez, ça laisse des traces qui sont complètement différentes. Et par exemple, pour vous amuser un petit peu, vous avez des bords empâtés, des bords filetés, des bords nervurés, tout un vocabulaire en fait qui est bien spécifique et qui s'applique justement en regardant à la fois à l'échelle de l'œil nu et au microscope.
Et par exemple, tu disais tout à l'heure entre le modelé et le colombin, comment tu arrives à voir la différence ?
Déjà, on le voit en regardant la surface, par exemple, une surface qui est modelée, vous avez des pressions qui sont exercées avec les mains. Donc ces pressions, elles entraînent l'existence de bosses et de creux. Le colombin, par contre, ce sont des jonctions d'éléments superposés. Et par exemple, vous les repérez facilement en touchant la surface. Il y a l'aspect tactile qui est très important. Et vous sentez des petites bosses régulières et aussi des fissures. Parce qu'effectivement, entre ces creux, il y a des fissures qui apparaissent. Vous regardez aussi ce qu'on appelle la section radiale, c'est-à-dire la tranche de votre tesson, donc qui est un fragment de céramique. Mmh. Et vous regardez l'alignement de toutes les petites inclusions minérales, des roches, des matériaux argileux, en somme, qui vous donnent une série d'indices. C'est un peu retrouver les traces finalement progressivement comme une petite enquête. Vous retrouvez plusieurs indices et vous dites, ah, c'est probable que ce soit ça ou pas. Et
est-ce que parfois on a des empreintes digitales?
Ah oui, ça c'est... J'ai trouvé ça très émouvant, effectivement, quand vous touchez la surface, il vous arrive de tomber sur un creux et en fait effectivement c'est une empreinte digitale. Donc effectivement on en retrouve souvent.
Et on fiche pas les potiers, il n'y a pas encore un fichier empreinte digitale des potiers du Pérou.
Non, mais ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'au final, ce qu'on essaye de rechercher, c'est des signatures de potiers. Effectivement, c'est retrouver ces communautés de pratique où on partage les mêmes savoir-faire, les mêmes gestes qu'on se transmet dans le cadre notamment d'un atelier.
Et toi, Rachel, tu travailles comment dessus ?
Donc c'est des bases, hein, c'est des monuments, c'est des blocs de pierre.
Et une idée des dimensions, parce que tu fais des grands gestes dans le studio.
Personne ne te voit.
Oui, on a des bases de statuettes donc qui peuvent faire une dizaine de centimètres de côté. Et puis on a des bases monumentales qui peuvent faire 5, 6, voire même d'accord. plus 10 mètres de long. J'ai dans mon corpus du coup des statuettes d'une dizaine de centimètres de haut et des statues colossales de 9 mètres de haut. Donc moi je me balade dans les sites, dans les musées en Grèce et je repère alors déjà les monuments, je prends que des monuments inscrits. C'est pas les seuls qui ont gardé des traces, mais ça me permet d'avoir des éléments de datation parce qu'avec les inscriptions on peut avoir des éléments de datation. Donc, et puis aussi d'avoir le plus d'éléments possible justement pour ces datations, le contexte, voilà. Du coup, je prends des bases inscrites et puis j'essaye de les retrouver. Alors, soit je les ai trouvées sur le site et puis je vais chercher, voir pour retrouver dans les corpus ce qu'on en dit, ou l'inverse, je les ai trouvées dans les corpus et j'essaye de les retrouver sur les sites. Donc, ça, c'est une grosse partie, ça a été une grosse partie de mon travail. Et puis, une fois que je les ai... je relève l'architecture de la base, c'est-à-dire en gros quel type de base, la forme, etc. La taille surtout de ce qu'on appelle le lit d'attente, qui est la partie qui porte les traces de la statue. Parce que ça va m'intéresser pour savoir un peu comment la statue était placée. Puis des mesures, évidemment, des traces. Alors, ce qui est intéressant, moi, c'est que les traces, donc, ça dépend du matériau de la statue. J'ai pas du tout les mêmes traces pour une statue de marbre et une statue de bronze. Alors, pour une statue de marbre, la statue est en général sculptée sur, avec une plinthe. C'est l'élément horizontal qui permet à la statue de tenir. Et donc, bah, dans la base, on a un creux qui correspond à la plinthe. Et la plinthe est insérée dans le creux. Et par contre, pour les statues de bronze, on a l'empreinte des pieds. Parce qu'en fait, les statues étaient creuses. Et en fait, on les fixait par l'intérieur du pied. Donc, on creusait dans la base un trou de la forme du pied. Et on fixait par...
Est-ce qu'on retrouve les empreintes digitales? La fille a compris.
Non, mais par contre, on retrouve bien les empreintes des chaussures. Et donc, on a des empreintes de pieds. Voilà. Du coup, bah, j'enregistre...
Un fichier des bottiers, peut-être, alors, après le...
Oui, c'est ça. Je relève la taille. Donc, je relève vraiment la taille de l'empreinte.
Ah, d'accord. C'est du 36.
C'est ça.
Exactement.
Alors, souvenez-vous, il y a un an, au MAN... On était avec Isabelle de Miranda et Joël Roland. Elles étaient venues nous parler de l'apport de l'archéologie expérimentale en médiation. On réécoute un petit extrait et on en reparle après. Joël Roland, vous, comment vous alliez vos deux casquettes en fait, d'archéologue chercheuse sur le terrain et puis de chercheuse aussi dans l'expérimental qui fait de la médiation? Comment vous envisagez ce lien?
Alors, j'envisage ce lien tout simplement dans l'idée que la recherche archéologique actuellement, elle est là pour le public. C'est-à-dire qu'on ne recherche pas pour nous-mêmes, on ne recherche pas pour réaliser des livres sur tel sujet ou tel autre. On est là vraiment pour partager nos recherches.
Est-ce que vous êtes plus dans la médiation par rapport à votre métier? Est-ce que ça vous arrive de l'être et de quelle manière?
Eh bien, tout simplement en faisant de l'expérimentation en public, on partage notre métier et nos méthodes de recherche. On va leur expliquer ce qu'on fait, mais aussi les mettre dans une position eux-mêmes de recherche. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, notamment avec les enfants, en leur demandant tout d'abord qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils remarquent, et de leur faire eux-mêmes une démarche d'analyse, de déduction, d'observation, qui est tout simplement à la base des méthodes de l'archéologie. Par ces méthodes-là, on va les pousser à développer leur sens critique, leur esprit d'analyse, et tout simplement leur montrer que l'archéologie, c'est une science qui est à la fois multiple. On a la chance d'avoir une science qui utilise de nombreux outils à sa disposition, et ça leur permet tout simplement d'approcher l'archéologie et toute sa diversité.
On vient de le comprendre, l'archéologie expérimentale est très utilisée dans le cadre d'opérations de médiation. Mais vous, Alicia, Gisèle et Rachel, est-ce que l'archéologie expérimentale ne tient pas un rôle encore plus profond, encore plus fondamental en fait, dans votre pratique? Quelle est la place de l'expérimentation dans votre raisonnement? Gisèle, par exemple?
Oui, pour moi, l'expérimentation, elle est vraiment essentielle parce que finalement, nous, on n'a plus l'habitude de travailler ces matériaux, de faire ces objets. Donc, on a perdu un peu ce lien avec la matière. Et du coup, c'est vraiment essentiel de la travailler nous-mêmes pour retrouver un peu les gestes, pour essayer de voir comment, avec des outils qu'on n'a plus l'habitude de manier, on pouvait fabriquer ces objets. Donc voilà, et en fait... quand on voit une trace, on ne peut pas forcément directement l'interpréter. Donc pour moi, un stigmate de fabrication. Et l'expérimentation, en fait, elle nous aide à retrouver les différents types de stygmates et à peu construire un espèce de référentiel de stigmates. Et à partir de ce référentiel, on peut en fait retrouver quelle technique a été utilisée sur nos objets, les objets qu'on étudie.
Et donc, par exemple, c'est quoi comme type de technique?
Bah, par exemple, pour moi, ce sera par exemple du rabotage ou du sciage. Enfin, par exemple, si je vais retrouver des espèces de sillons très réguliers, bah là, je vais savoir que ça va être du sciage parce qu'en expérimentation, j'ai pu voir que si je sciais le bois d'une telle manière, bah, ça va me produire des sillons qui sont comparables.
Mmh. Rachel, tu utilises ce genre de choses aussi?
Non, je ne construis pas, je ne fabrique pas des statues de bronze, de pierre. Non, bah, du coup, par contre, moi, j'utilise je compare avec ce qu'on sait des techniques de fabrication des statues. Donc, bon, je ne suis pas tailleuse de pierre non plus. Mais par contre, il y a eu des études sur la taille de pierre. Donc, j'utilise ces études-là. Et il y a des études en ce moment, depuis 25 ans, 30 ans, sur la fabrication des statues de bronze.
Et ça nous dit quoi ?
Bah, en fait, ça, du coup, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas toute la fabrication des statues, c'est à quoi ressemblent les pieds.
Ouais.
Sur les rares statues de bronze qu'on a conservées pour l'époque qui m'intéresse, bah, à quoi ressemble l'aspect sous les pieds pour comparer avec ce que j'ai sur les bases, et aussi quels sont les éléments utilisés pour la fixation. D'accord. Parce qu'en fait, moi, j'ai des trous.
Ouais.
De l'autre côté, on a des statues. Souvent, les statues de bronze des anciennes, on a enlevé tous les éléments de fixation parce que c'était pas beau, c'était moche et tout. Et donc, on n'en a que quelques-unes où on a conservé le système.
Alicia ?
Pour rebondir sur ce que disait Gisèle, effectivement, quand on est face à des traces, c'est très difficile de les interpréter immédiatement parce qu'on n'est pas en mesure de reconnaître, par exemple, les outils qui étaient utilisés. Donc, on travaille, pour rebondir aussi sur la question de tout à l'heure, tout le temps sur des comparaisons avec des référentiels qui soient expérimentaux. Mais aussi, je voudrais insister sur ce point et l'évoquer sur les référentiels ethno-archéologiques. C'est-à-dire que quand on travaille sur, par exemple, la poterie, qui est un artisanat encore en vigueur aujourd'hui, moi, par exemple, dans le cas du Pérou, ce que je fais, c'est que je vais me rendre auprès de potiers directement dans un village qui s'appelle Chulucanas, la Encantada, dans le nord du Pérou, pour voir véritablement comment eux produisent la céramique et aussi tout ce qui est l'univers autour de l'atelier, l'organisation sociale, économique, les rapports entre les différents artisans. Donc l'expérimentation auprès des potiers actuels joue aussi une part très importante.
Lydia, tu avais une question ?
Ah oui, juste, après ce processus d'enquête, comment est-ce que vous attribuez vraiment... est-ce que vous avez des doutes parfois sur ce que vous voyez, sur les traces qui sont laissées, sur la manière de les catégoriser ?
Des doutes, on en a toujours, je pense, c'est très difficile, mais d'où l'intérêt des référentiels pour bien comprendre les traces. Aussi, dans le cadre de la technologie, c'est très important de connaître les techniques en amont pour savoir quel type de traces elle peut laisser, bien connaître ces techniques, faire des référentiels et aussi discuter avec les chercheurs. Ça, c'est une part très importante. Et mon expérience pour le moment avec mes camarades en technologie, et en cela très importante, c'est qu'on a tous des doutes, qu'on ait 50 ans, soit 20 ans, on a tous des doutes sur ce qu'on voit. Et donc, c'est un apprentissage perpétuel.
I've been caught.
Le criminel a surgi de dessous ces arbres. Il y a d'excellentes empreintes de pas. Et des indices, mon cher, à ne savoir qu'en faire. Un mouchoir, un bouton...
Encore un assassin étourdi.
Ah, s'il ne commettait pas d'impair, nous ne les attraperions jamais.
Voilà, c'était Youth Lagoon, Savage Hills Ballroom. On est toujours sur Radio Campus Paris, sur le 93.9. Toujours pour parler donc des traces en archéologie. Donc une fois qu'on a repéré ces traces et qu'on les a étudiées, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les résultats que vous obtenez, Alicia par exemple?
Alors effectivement, c'est important de redire que cette analyse qu'on fait des traces, elle sert à répondre à une problématique qui est d'ordre culturel. Alors pour ma part, ce que je vais essayer de faire, c'est comparer les modes de fabrication des cultures qu'on appelle Viru, Gallinaso et Mochica, pour voir s'ils partageaient les mêmes traditions, les mêmes savoirs, parce qu'ils sont contemporains dans un même espace, mais on peine véritablement à savoir qui ils étaient et si ils entretenaient donc des contacts. Donc l'analyse des traits de fabrication va permettre de mettre en évidence des traditions, des manières de faire, et reconstituer aussi la mobilité des hommes, des céramiques, pour voir si d'une vallée à l'autre, il y avait des choses qui se transmettaient. Donc voilà, c'est redonner une dimension humaine à ses productions.
Donc, montre-moi la trace que tu fais, je te dirai qui tu es.
C'est un peu ça.
Gisèle, est-ce que tu as des résultats?
Oui, alors bon, moi, c'est encore des résultats qui sont en acquisition, hein, mais c'est vrai que, par exemple, si je prends l'exemple de mes deux peuples que j'étudie en Patagonie australe, donc les Yamana et les Alakalouf, ce que je peux d'ores et déjà voir, c'est que, bah, effectivement, ils avaient des harpons de la même forme, avec des manches a priori aussi de la même forme. Mais ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'en fait, ils les fabriquaient pas du tout de la même manière. Et donc ça, effectivement, comme le disait Alicia, ça donne vraiment une image du peuple qui sont derrière ces savoir-faire.
Mmh. Et, derrière la technique, quoi.
Derrière la technique. Et là, voilà, c'est des peuples qui ont une culture matérielle très similaire, mais finalement, on voit que leur identité technique n'était pas la même.
Oui, donc il ne faut pas se fier aux apparences, quoi.
Voilà.
D'où l'importance de la technique dans l'étude des populations.
Et ça donne aussi, en fait, en creux, une image des flux, des flux de savoir, de connaissances, des échanges commerciaux qu'il y avait entre ces deux, ou pas, qu'il y avait ou pas entre ces deux peuples, en fait, c'est ça?
Oui, c'est ça. Bah, alors là, du coup, c'est une technique qui n'a pas été échangée. Hein. Il n'y a pas eu de transfert technique là-dessus. Et ça marque plutôt le fait que c'était deux peuples distincts, avec des identités techniques distinctes.
Rachel, du coup, toi, tes études, ça t'apporte quoi?
Alors, moi, j'ai aussi cette dimension-là. Sur l'établissement de techniques propres ou non, d'ailleurs. Et justement, de voir qu'au cours du temps, on a des techniques différentes et qui circulent et qui, progressivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une standardisation. Et ça, de la technique, c'est-à-dire qu'on a vraiment des choses très différentes à l'époque archaïque, donc... avant le 5e siècle, et qu'il y a un moment où on voit que les techniques deviennent progressivement, dans plusieurs points du monde grec, les mêmes. Et ça, c'est assez intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a une koiné, ce qu'on appelle une koiné dans le monde grec, un monde commun, une culture commune qui se dessine. Du point de vue de la sculpture. Alors ça, c'est l'aspect technique. Puis moi, j'étudie du coup aussi les statues. Enfin, est-ce que ça peut nous dire, les traces, les empreintes des statues peuvent nous dire sur ces statues? Et du coup, ça peut nous donner des idées, des informations sur les types de groupes. On a des informations sur la disposition des statues. Comment est-ce que c'était des groupes qui interagissaient, donc les personnages interagissaient les uns avec les autres, ou est-ce que c'était simplement des personnages debout les uns à côté
sur
des autres?
Sur des bases différentes, en fait, ou sur une même?
Alors,
base
on a, justement, on a des bases différentes avec une seule statue, on a des bases où il y a deux ou trois statues, puis on a des groupes avec des bases qui font 6-7 mètres, et puis justement savoir si les statues interagissaient, enfin, étaient représentées comme interagissant,
ou si elles étaient simplement les unes à côté des autres.
Lydia, tu avais une question ?
Donc à partir, c'était plus un constat, mais à partir d'une seule base avec des statuts inexistants, tu peux presque extrapoler le type de groupe qui se trouvait dessus et ses interactions ?
Alors, je ne peux pas extrapoler énormément. Alors, bon, pour des spécialistes de la sculpture, on va me dire, vous n'avez pas grand-chose, parce qu'on travaille sur le pli du vêtement, sur le nombre de mèches de cheveux, sur la façon... Bon, tout ça, évidemment, je n'ai pas accès. Ce à quoi j'ai accès, c'est l'attitude, c'est-à-dire, alors du coup, uniquement l'attitude à partir des pieds. J'ai accès au fait est-ce qu'il y avait des attributs, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait une lance, un objet sur lequel on se posait, est-ce qu'il y avait un animal, est-ce qu'on se posait sur un seul pied ou sur deux pieds à plat. Ça, c'est important parce qu'on a des postures qui se développent. J'ai accès à seulement ça, donc évidemment pas le haut du corps.
Seulement, c'est très humble. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup. Hein.
J'aimerais bien savoir ce qu'elle avait dans les mains, la Vénus de Milo, parce qu'au bout d'un moment.
Oui, c'est vrai. Bah, écoute, on va attendre
on le sait,
que quelqu'un
on le sait
finisse
pas.
Sa thèse.
Après, on peut faire des. Enfin, bon, pour les statues, on a des comparatifs pour savoir quels sont les. Enfin, on a des statues, on a des qui sont complétées, etc. Donc, évidemment, après, moi, je peux dire. Elle était debout sur le pied droit avec le pied gauche en arrière sur la pointe, avec une lance dans la main droite. Une statue offerte par un tel représentant, si j'ai une inscription qui me le dit. Et du coup, je peux aller regarder je peux aller regarder sur l'iconographie si le sujet est bien déterminé. On pourra toujours que proposer des hypothèses, mais oui, il y a pas mal d'informations. Et un aspect que je voulais juste donner, c'est que c'est pas tellement sur la statue, je peux dire quelque chose, mais c'est surtout sur le rapport entre la statue et la base, parce que j'étudie du coup sur le temps long, et voir comment la statue occupe la base. Est-ce qu'elle est plus grosse, plus petite, et donc j'en ai beaucoup. Ça me donne beaucoup de matériaux, beaucoup plus qu'avec les statues conservées.
Et une petite question aussi, tu parlais tout à l'heure de coiner, de standardisation des techniques à partir d'une certaine époque. Est-ce que c'est des indications qu'on trouve dans d'autres domaines que dans l'observation des marques, ou est-ce que c'est vraiment propre à ton domaine de recherche,
de standardisation ? On a des... Alors, c'est assez... Non, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau stylistique, l'époque hellénistique, il y a une profusion de pas mal de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que du point de vue technique, il y a une standardisation. Alors, c'est un processus de standardisation. Je ne veux pas dire du tout qu'à l'époque hellénistique, c'est standardisé.
Avec quels autres spécialistes vous travaillez ? Parce que j'imagine que vous ne travaillez pas toute seule.
Si,
dans mon bureau. Alicia ?
Vous voulez dire d'autres disciplines,
hein. Ouais.
Par exemple, il est intéressant de travailler notamment des gens qui s'intéressent aux aspects fonctionnels, pour quand vous retrouvez donc des traces d'utilisation sur les céramiques, mais aussi en technologie céramique, on travaille en étroite collaboration avec les pétrographes, parce que la pétrographie, les techniques de fabrication sont l'un des aspects de la technologie céramique, et la pétrographie est un aspect complémentaire, c'est-à-dire la pétrographie, c'est en gros l'analyse des inclusions que vous retrouvez dans la pâte, donc qu'on peut appeler aussi dégraissant quand c'est une action volontaire, donc c'est pour permettre une meilleure cuisson, etc. Et donc ces gens-là, avec des lames minces au microscope, vous permettent en fait de caractériser ces inclusions et définir notamment d'où proviennent ces roches. Donc par exemple, si moi je travaille sur la côte du Pérou et que je retrouve des roches volcaniques dans mes céramiques, ça veut dire que c'est une argile qui peut-être vient des hautes terres. Donc ça peut rejoindre la question des contacts, circulation des savoirs et des matières.
Rachel, Gisèle ?
Ça m'arrive d'avoir des contacts avec par exemple des gens qui s'intéressent plutôt à la menuiserie, mais aussi il y a des gens qui s'intéressent aux mécaniques du bois, parce qu'effectivement, en tant qu'archéologue, on n'a peut-être pas forcément ce genre de connaissances sur la matière, à savoir si un bois est plutôt élastique, plutôt dur, ce genre de choses. Donc c'est toujours intéressant de discuter avec des spécialistes qui s'y connaissent plus sur la matière réellement.
Là, on rejoint en fait un petit peu l'ethno-archéologie dont parlait Alicia tout à l'heure,
Oui, tout à fait, effectivement, parce qu'en tant qu'archéologue, on ne voit pas forcément les mêmes choses, c'est toujours intéressant de partager.
Rachel ?
Bah, du coup, moi, je vais travailler avec des spécialistes de sculpture, plus de sculpture, et puis en architecture aussi, pour travailler sur les types de bases, parce qu'il y a des techniques qui sont en lien avec la forme de la base elle-même. Et puis aussi les spécialistes des différents sites, donc qui sont plutôt spécialistes d'architecture et qui vont avoir une connaissance du site qui permet aussi de mettre en œuvre une réflexion, parce que j'ai plusieurs sites dans mon corpus. Donc.
Bon, on va conclure. On va vous remercier vraiment toutes les trois d'être venues. Je voudrais vraiment remercier le MAN et tous les intervenants qui n'ont pas pu venir.
On peut les nommer: Julien Ripoche, Alice Vinet, Émilie Cavana.
Ouais,
et
merci à tous.
Merci encore à Alicia, à Rachel et Gisèle d'avoir accepté.
Malgré tous ces événements, on y arrive. On a vraiment réussi à mettre en place cette émission malgré tout. Je voudrais citer deux actus du MAN, Musée d'archéologie nationale. Donc c'est le mois François 1er, là, ce mois-ci. Donc il y a une prochaine conférence dans le cadre de ce mois-là, le 28 novembre, à 14h30. Et puis il y a des nouveaux dépôts du Musée de l'Homme qui vient de réouvrir, donc des dépôts du MAN au sein du Musée de l'Homme. Donc je vous invite à aller le voir rapido. Et puis une expo qui est liée aux traces au musée de Saint-Maur à la Villa Médicis. Donc rien à voir avec l'archéologie, mais comme il y avait traces, j'avais envie de le dire. À la Villa Médicis jusqu'au 24 janvier. Voilà, je passe la main à la radio Coups Humains. Et puis je vous dis à dans un mois. Merci à tous.
Merci.
Merci à moi.